C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC.
J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite.
Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il fallait prendre le morceau de tissu, zzz, zzz. C'est pas tac, 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 tac.
Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fière. Hein.
Les mains d'or. Des mains tendues qu'on oublie parfois de serrer. Des petites mains, des mains vertes. Oui, des mains qui soignent, nourrissent et produisent. Des mains qui nous grisent et puis surtout, qui nous racontent des histoires. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 et les mains d'or, c'est leur voix.
Bienvenue sur les mains d'or. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan, qui va nous parler non pas d'un métier manuel, mais d'un métier qui demande d'utiliser tout son corps, dont ses mains, bien entendu. Jonathan, tu es danseur, entre autres. Bienvenue.
Bonjour, merci.
Donc Jonathan, tu es donc danseur et je voudrais savoir quand est-ce que tu as commencé à danser.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dansé. Après les premiers cours que j'ai pris, j'avais 14 ans.
C'est assez tardif.
C'est tardif, mais c'est-à-dire que étant un garçon et une famille assez traditionnelle, la danse n'était pas le premier choix dans les disciplines acceptées extrascolaires.
Tu as fait quoi comme sport? Tu étais sportif à la base?
J'ai fait beaucoup de sports, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket très longtemps. Mais voilà, je passais d'une activité à l'autre jusqu'à ce que le Graal me soit enfin offert et là je suis resté à la danse.
Tu as commencé par quel type de danse?
J'ai commencé par du hip-hop.
Par du hip-hop. Mm-hmm. C'était plus accepté par rapport au fait que tu es un garçon?
Oui, je pense que c'était plus accepté. Puis c'était aussi à une époque où le hip-hop, ça se popularisait de plus en plus en France.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, ça passait mieux que la danse classique où on est en collant. Donc, j'ai commencé par le hip-hop. Et c'est aussi moi-même ce que je voulais faire, de toute façon, au début.
Et après, tu es passé donc à la danse classique?
Tout à fait. En fait, en hip-hop, on a beaucoup d'improvisation. On n'apprend pas forcément des chorégraphies comme on va apprendre dans des techniques plus académiques. Et bah, les improvisations, je faisais, bah, malgré moi, des choses plutôt classiques que je ne savais pas, mais que j'avais dû voir dans des spectacles ou à la télé. Et donc du coup, ils m'ont dit que peut-être je n'étais pas dans le bon cours. Et je suis passé après dans la comédie musicale. Et à la comédie musicale, j'ai découvert notamment la danse classique. Et là, c'était la révélation.
Le hip-hop, tu en as fait à Blois, j'imagine?
J'en ai fait à Blois.
Et la comédie musicale?
À Blois également.
À Blois également?
Tout à fait, oui.
D'accord. J'imagine même pas qu'il y avait des cours de comédie musicale à Blois.
Il n'y avait pas des cours, mais il y avait à l'ALEP un groupe qui s'était créé, en fait, où il y avait de la comédie musicale tout au long de l'année, et puis à la fin de l'année, il y avait un spectacle.
Waouh, ça fait rêver.
Ça fait rêver, c'était très chouette. Et puis, ça a été un petit peu le déclic en me montrant que j'étais sur ma voie.
Oui, tu as vraiment ressenti que tout ton corps était bien d'accord pour t'emmener longtemps dans ce domaine, hein?
Bah, j'ai tellement bien ressenti ça que j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie à 16 ans aux États-Unis.
Donc en gros, à 16 ans, c'est à ce moment-là que tu te dis « la danse, ça va être toute ma vie ?»
Je me suis souvent posé cette question. Est-ce que si j'avais commencé la danse tout petit, j'en aurais fait mon métier? Ou est-ce que du coup, il y avait une telle frustration et que enfin, les portes s'ouvraient et que du coup, je me suis dit « oui, maintenant, je ne veux faire que ça, je ne sais pas ». Mais en tout cas, à ce moment-là, oui, je me suis dit, je ne me vois pas faire autre chose que danser.
Et donc, à ce moment-là, tu arrives aux États-Unis, j'imagine New York?
Boston.
Boston.
Boston. Je suis partie dans un programme, en fait, où on fait anglais et danse.
D'accord.
Donc, du coup, le matin, j'avais les cours d'anglais, l'après-midi, j'avais les cours de danse. Et j'étais dans une famille d'accueil à Boston. Donc, à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable comme on a aujourd'hui, où il n'y avait pas Internet comme on a aujourd'hui. Donc, on était vraiment coupé du monde. C'est-à-dire, pour moi, la France, c'était vraiment un autre monde pendant que j'étais là-bas. Et c'était trop bien.
Et t'es parti quoi? Un an au départ?
Non, je suis parti un mois. Après, j'ai quand même fini ma scolarité, moi, en France.
Mmh.
Je suis allé à la fac parce qu'il fallait absolument, pour mes parents au début, que j'ai quand même un parcours sécurisé, on va dire.
Bien sûr.
Et en fait, à la fac, bon, bah, j'ai validé mes partiels, il n'y a pas de souci, mais j'étais vraiment pas empli. C'était pas mon lieu. J'étais à Angers et en parallèle, j'étais au conservatoire d'Angers aussi quand même.
Mmh.
Et en fait, au terme de cette année, j'ai passé une audition dans une école professionnelle à Paris de danse. Et j'ai lâché la fac pour aller dans cette école à Paris. J'ai fait 4 ans dans cette école, pardon. Et après, je suis partie à New York pour 7 ans.
7 ans, mmh. Ok. Et c'est comme ça que petit à petit, donc, tu deviens professionnel danseur. Tu as dansé dans des troupes, j'imagine.
Oui, j'ai dansé dans plusieurs compagnies aux États-Unis. Mmh. L'avantage à New York, c'est que c'est une grosse mégalopole et c'est multiculturel. Donc du coup, moi j'avais une formation quand même classique à la base, mais beaucoup jazz et contemporain également. Et donc du coup, j'ai dansé tant pour des compagnies classiques que contemporaines, modernes. Et quand on dit contemporain, moderne, ça veut tout et rien dire, parce que le contemporain en France et en Asie, par exemple au Japon, c'est pas pareil. Mmh. Et c'est ça la richesse aux États-Unis, c'est que j'ai travaillé pour des chorégraphes qui venaient vraiment de partout dans le monde. Donc du coup, c'était hyper riche.
J'imagine volontiers. Et est-ce que tu enseignes la danse? Et est-ce que c'est lié à ton parcours américain?
Alors oui, j'anime des stages ou même des ateliers de danse. Alors moi, surtout classique, parce que ça reste quand même mon cœur de métier. Surtout classique aussi parce que c'est la technique dans laquelle j'ai l'impression que je peux plus apporter à l'élève en termes d'évolution. Après, je donne aussi bien sûr des stages de danse moderne et contemporaine parce que ça fait partie de ma formation et pour la compagnie pour laquelle je travaille maintenant, on est comme une compagnie moderne contemporaine. Donc du coup, bien sûr, j'anime ça aussi. Ça fait partie du job et je trouve que c'est essentiel pour un danseur professionnel de aussi enseigner parce que ça nous permet en fait de voir sur d'autres corps des problématiques. Et comment on peut régler ces problématiques. Donc du coup, c'est un très bon outil pour nous pour pouvoir évoluer nous-mêmes en tant que danseurs.
Je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Très intéressant, merci. Comment on devient professeur de danse? Parce que bon, j'imagine que tu ne sors pas dans la rue en disant « Bonjour, je vais vous enseigner la danse ». C'est peut-être autre chose avant.
Alors oui, tout à fait. Alors disons qu'en France, c'est un parcours très différent de l'étranger. C'est même un parcours très spécifique en France, mais à l'international, notamment aux États-Unis par exemple. À partir du moment où on fait une formation professionnelle et qu'on est diplômé, on peut enseigner. Il n'y a pas de souci. Et puis en général, quand on a ce diplôme-là, peu importe après où on va, moi c'est vrai que j'ai enseigné en Asie, j'ai enseigné en Amérique du Nord, en Europe, dans plusieurs pays, et ça, surtout pour des stages, ça a toujours suffi pour aller animer tous ces cours à gauche à droite.
À l'heure actuelle, je sais que dans tes cours, il y a des jeunes qui ont envie de devenir professionnels un jour. C'est quoi les conseils pour devenir professionnel danseur? Parce que bon, j'imagine qu'on ne s'improvise pas comme ça. Potentiel futur danseur.
Alors pour être danseur professionnel, il faut avoir beaucoup de passion, ça c'est sûr. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on fait ça en tant que loisir et après quand on le fait vraiment en formation pro et en tant que pro, il faut avoir un énorme degré de passion parce que la passion, elle meurt quand même. Parce que c'est un métier qui est très difficile, psychologiquement et physiquement. Donc il faut vraiment avoir des grosses épaules, être très motivé. Et je pense que ce qu'il faut surtout, c'est laisser son ego de côté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre toutes les corrections qu'on va nous donner, tous les conseils. Bien sûr, il faut faire le tri, voir ce qui nous parle, mais il faut vraiment être une page vierge avec chaque professeur et avec chaque chorégraphe et vraiment partir du principe qu'on peut apprendre de tout le monde. Moi, souvent, à New York, j'allais prendre des cours classiques débutants pour revenir aux bases et puis encore une fois aussi pour voir comment... Parce que quand on a un certain niveau, après, il y a plein de choses qu'on oublie. Je pense que c'est vrai dans tous les métiers. Et donc du coup, revenir à la base, revenir avec des corps qui ne sont pas forcément formés pour la danse classique, ça m'a beaucoup appris. Donc je pense qu'il faut vraiment être une page vierge avec chaque personne avec qui on va travailler.
Absolument passionnant, tu me fais découvrir complètement un autre monde. Alors je t'ai demandé aussi de me faire découvrir des musiques en tant qu'à découvrir. Et tu nous as proposé The Clouds, The Mind of the Rewind de Ezio Bosso. Que je ne vais pas vous passer en entier, je l'avoue. C'est une magnifique musique qui dure 7 minutes. Mais je vous propose de découvrir ce morceau absolument magnifique. Alors cette musique, tu l'as utilisée en tant que chorégraphe?
Tout à fait. Donc j'ai fondé la compagnie Azad Dance Theater à New York en 2014. Et pour ma première création, en fait, il fallait que c'était un solo. Et je cherchais une musique, parce que moi j'ai besoin de la musique pour pouvoir créer. Et je cherchais une musique qui puisse soutenir, relater le propos que je voulais exprimer avec la danse. Et quand j'ai entendu cette musique, et ben c'était une évidence. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé cette musique. Et après, Dio Bosso, c'est ce compositeur italien incroyable, en fait, j'ai souvent utilisé ses musiques par la suite. On va dire dans les 3-4 premières années, mes 3-4 premières années en tant que chorégraphe avec Azad Dance Theater. Et ouais, c'est des musiques qui sont très sensibles.
Mais comment devient-on chorégraphe?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut avoir quelque chose à dire. Moi, déjà, quand j'étais sur Paris, j'avais déjà chorégraphié pour différents projets. J'avais beaucoup aimé. Et en fait, à New York, je pense qu'à un moment, j'avais des choses à dire et en dansant pour les autres, je n'arrivais pas forcément à exprimer ce que moi je voulais dire. Donc, on exprime la voix d'un chorégraphe. On utilise aussi son corps, on abîme son corps à chaque fois qu'on danse. Et donc, il est arrivé un moment où j'avais envie de vraiment m'exprimer 100% moi-même et d'abîmer mon corps pour cette expression. Et voilà, et moi, je chorégraphie quand j'ai des choses à exprimer. Et donc, c'est des propos en général de société ou c'est vraiment des choses qui sont liées au psyché de l'homme, de l'humain.
Oui.
Et voilà, et c'est vraiment un besoin. Je pense que c'est vraiment un besoin.
Pour ça, tu as pris des cours de chorégraphe ou tu t'es juste appuyé sur ton expérience de danseur? Comment ça se passe?
Je dirais que je me suis appuyé sur mon expérience d'humain.
Oui.
Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux danseurs de la compagnie, c'est que je dis que j'aimerais voir, pas des danseurs sur la scène qui interprètent mes pièces, mais j'aimerais voir des humains qui dansent. C'est très important pour moi. Et moi, c'est vrai que j'ai une formation de théâtre. J'ai fait pendant des années de théâtre. J'ai fait aussi une formation professionnelle de théâtre à Paris. Pareil en musique et pareil en chant. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et je pense que tout ça comment dire, ça façonne aussi des repères créatifs et une identité. Et je pense qu'à force d'expérience, quand on a été danseur, quand on a aussi participé à des processus chorégraphes avec créatifs avec des chorégraphes, ça nourrit et puis ça nous apprend. On apprend sur le tas beaucoup.
Et justement, tes chorégraphies, tu parles d'humain, de psyché de l'homme, etc. Comment tu les crées, ces chorégraphies?
Alors, avant tout, moi, il faut que j'ai un propos, comme je disais, il faut que j'ai quelque chose à dire. Et une fois que j'ai quelque chose à dire, donc il y a deux grosses étapes. La première étape, c'est la musique qui va porter ce propos. Donc j'ai besoin de trouver des musiques qui m'inspirent et sur lesquelles je sens que je peux chorégraphier ce que j'ai envie de chorégraphier. Et ce propos, je vais le développer comme un petit squelette, c'est-à-dire je vais dire, je veux que ça commence comme ça, je veux que ça finisse comme ça. Je veux qu'il y ait tant de scènes, tant de tableaux. Et en termes de mise en scène, j'ai envie de voir ça sur la scène. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les mises en scène. J'aime beaucoup quand il y a des choses au plateau autres que le simple corps. Donc il y a par exemple Home, une création que j'ai fait en 2020. Il y a tout donc sur qu'est-ce que représente la maison pour chacun. J'ai travaillé avec différents publics parce que je fais ça aussi pour m'inspirer aussi des ressentis d'autres personnes. Donc j'ai travaillé avec des migrants, j'ai travaillé avec des gens qui sont en EHPAD, je travaille avec un public de jeunes autistes pour voir ce que voulait dire la maison pour eux. Et dans cette pièce par exemple, tout au long de la pièce se crée sur scène une maison physique. On amène un lit, on amène une baignoire, on amène des tapis, on amène une table et on danse avec tout ça. Dans d'autres pièces, j'utilise par exemple des ballons dans une pièce récente avec des ballons qui flottent à l'hélium. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet de donner une autre dimension à la chorégraphie, c'est-à-dire comment je peux amener ces objets dans la danse, comment ça peut inspirer ma danse, comment ça peut la modifier et comment finalement on trouve une synergie avec tout ça et ça en fait une pièce unique.
Je vois tout à fait. Et d'où viennent tes danseurs?
Alors, quand on était encore à New York, donc comme je disais, c'était très, très varié niveau culturel. Donc on était 10 danseurs à New York. On avait des Brésiliens, Italiens, Japonais, Français, Américains et Argentins. Donc c'était vraiment très, très riche. C'était vraiment super. Après, on est revenu en France. Donc en France, pour nos premières représentations, nos premières tournées, on rapatriait nos danseurs américains. Et en fait, après est arrivé le Covid. Donc pour tout ce qui était voyage, c'était plus compliqué. Donc là, on a dû commencer à consommer local, comme on dit. Oui. Et donc du coup, on a engagé des danseurs français. C'est vrai que l'approche de la danse, elle est très différente en France et aux États-Unis, en tout cas à New York, où on était. L'approche de la danse, l'approche du travail et aussi les formations sont très, très différentes. Moi, à New York, j'étais avec Alvin Ailey, qui est vraiment très moderne, vraiment la danse moderne américaine. Et ce n'est pas forcément des formations qu'on trouve beaucoup en France. Ça commence beaucoup plus à éclore maintenant, mais il y a quelques années, pas tant que ça encore. Donc du coup, c'est difficile aussi des fois de trouver les danseurs qui ont la capacité technique à vraiment interpréter le travail de répertoire de la compagnie. Donc des fois, il faut vraiment leur réapprendre de la technique pour ensuite arriver au travail d'interprétation. Donc en général, quand on travaille en compagnie, c'est pas le but. On veut déjà des danseurs qui sont aptes à faire les pièces. Donc du coup, on a quand même quelques danseurs français qui nous suivent depuis des années, donc du coup qui sont vraiment adaptés à l'identité de la compagnie. Et ensuite, il nous arrive encore de faire venir nos danseurs de l'étranger quand on a besoin de plus gros casting.
Tu nous as apporté une deuxième musique qui s'appelle Mother de Seyssett.
Seyssett, c'est ça. Seyssett, hein. Compositeur français.
Ouais. Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Alors Seyssett, c'est un compositeur français qui compose depuis des années, des années, des années, des années. Ses premières œuvres, j'ai entendu beaucoup, moi quand j'étais en formation à Paris à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, ses premières œuvres, il y a beaucoup de mes camarades qui les utilisaient dans des créations. C'était sympa, mais j'étais pas plus sous le charme que ça. Et en fait, ces dernières années, c'est vrai que j'ai redécouvert son travail, qui, je trouve, s'est vraiment transformé, a gagné en maturité et a éclos d'une façon qui, moi, me parle. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon début de travail avec Azad Dance Theater, j'utilisais beaucoup Ezio Bosso. Maintenant, j'utilise beaucoup Seyssett. donc, du coup, ouais, c'est une musique qui... Moi, j'ai besoin de musiques qui sont puissantes émotionnellement ou alors qui sont puissantes musicalement. C'est-à-dire, on va avoir du staccato, on va avoir des gros impacts, on va avoir des choses qui vont faire vibrer le corps. Voilà, c'est pas juste quelque chose à l'oreille, mais ça va nous faire vibrer l'être. Et donc, je trouve que Seyssett, en ça, il fait super bien le job.
Bon, bah alors, nous allons découvrir de ce pas ce que tu nous as proposé. Sachant qu'encore une fois, j'ai dû couper la musique parce que c'est toujours des longues musiques magnifiques, il faut le dire.
We'll be right back.
Alors, cet artiste-là, c'est Seth, avec le, enfin, sur lequel tu aimes beaucoup travailler, ainsi que tu viens de nous le dire. Tu l'as aussi choisi pour la mettre dans l'annonce de Blois Danse.
Tout à fait, donc Blois Danse, le festival chorégraphique international de Blois, qui fait sa 5e édition cette année. Donc dans la bande-annonce des spectacles qui ont lieu à l'Allograin, j'ai choisi cette musique, pas cette musique-ci, mais une musique de ces sept, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est une musique, ce sont des musiques qui portent et qui inspirent, et du coup, une bande-annonce, ça se doit d'être, de donner envie. Donc j'ai fait ce choix de mettre ces sept cette année dans cette bande-annonce qui va, j'espère, donner envie de venir découvrir les artistes. On reçoit 23 artistes cette année au Festival Blois Danse, des compagnies qui viennent des Pays-Bas, de France, d'Italie et de Suisse.
Quand tu t'es, quand à un moment donné, tu es aux États-Unis, puis tu décides que tu vas rentrer en France, à Blois, qui est donc ta ville d'origine. Quel est ton projet quand tu arrives à Blois? De quoi tu as envie?
En fait, j'avais surtout envie de partir de New York.
D'accord.
Parce que New York, c'est une ville qui est extrêmement chère, de plus en plus chère, qui devient de plus en plus pour les banquiers, pour les real estate, les agents immobiliers. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui étaient partis déjà, beaucoup de compagnies qui avaient quitté le paysage culturel new-yorkais. Et puis, j'aspirais à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est en 2018, je reçois un prix du gouvernement français qui salue mon travail à l'international avec la compagnie. Et je suis invité en France, au Quai d'Orsay, à venir recevoir ce prix. Et comme à chaque fois, c'est très pompeux ce genre de cérémonie. Ils m'ont envoyé à Blois pour faire aussi de la presse et des articles, vu que c'est ma ville d'origine. Mmh. À cette occasion, j'ai rencontré Marc Grécourt, le maire de Blois. On a échangé, on a parlé, et il m'a demandé quels étaient mes projets. Et moi, le gros projet que j'avais, c'était de créer un lieu de ressources pour la danse. Un lieu, c'est-à-dire où on pouvait, la compagnie ou des compagnies, même ouvert à d'autres compagnies qui peuvent répéter, qui peuvent créer, où le public peut aussi assister à ses créations, à ses répétitions, parce que ça cause aussi le quatrième mur. Et on voit en fait que la danse, quand on la voit sur scène, en général, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit un produit fini, mais il y a plein d'étapes avant d'arriver à ça, donc c'est très intéressant. Et il y avait aussi tout un pôle éducation, parce que je pense qu'il faut beaucoup démocratiser cette forme artistique, parce que comparé à la musique ou au théâtre en France, elle n'est pas très présente, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas les clés, donc ils ne vont pas voir les spectacles de danse. Donc je pense qu'il faut beaucoup éduquer aussi les enfants. Et il y avait aussi tout un pôle santé, la santé du corps dansant, qui est très oublié en France. Et donc j'avais ce projet de lieu sur lequel j'avais potassé pendant plusieurs années et que je cherchais un endroit pour l'établir. Et la municipalité de Blois m'a dit, il faut venir à Blois pour créer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de danse à Blois, il n'y a pas grand-chose, il y a tout à faire. Et on peut vous trouver un lieu pour ouvrir ce centre de ressources pour la danse. Donc je suis venu pour ça sur Blois. D'accord. Bon, malheureusement, le lieu qu'ils avaient en prédilection est tombé à l'eau. Donc on verra s'ils peuvent nous trouver autre chose en attendant.
Blois Danse, c'est, enfin, Azote plus exactement, c'est, il y a la compagnie, il y a aussi tout ce qui est, donc tu parles d'accompagnement, c'est une association Azote ou c'est Blois Danse l'association? Comment ça se passe?
Alors ce sont deux associations différentes. D'accord. Donc Azote Dance Theater, c'est la compagnie de danse. On a également des studios, donc où la compagnie répète et crée, et où on anime des ateliers qui sont ouverts à tous les publics, donc des ateliers de danse moderne, classique, contemporaine, danse latine, du pilates, de la gyrokinésie, du stretching, du yoga, voilà, c'est très varié, tout est animé par les danseurs de la compagnie. Et à côté, on a le festival, qui est son association propre, et qui est donc l'association Blois Danse.
Si on revient à Azote, qui dit association, dit membre d'une association, comment elle vit cette association?
Alors, comment elle vit cette association? Eh bien, elle vit avec les adhérents principalement qui suivent les ateliers à l'année, à Azote Art Center, qui se trouve à Vineuil. Mais elle vit également avec des gens qui aiment le travail de la compagnie, qui la suivent depuis des années, et du coup, qui la soutiennent, que ce soit par du bénévolat, ou que ce soit en adhérant à l'association pour lui apporter aussi des fonds. Et après, l'association, elle vit aussi avec toutes les activités que fait la compagnie, parce qu'on a donc tout notre travail de création et de diffusion qui est le plus important, parce qu'on tourne beaucoup en France et surtout à l'international encore. Tous les ateliers qu'on anime aussi à Azote Art Center, mais on intervient aussi auprès de publics scolaires. On intervient dans les écoles sur des projets chorégraphiques qui durent environ 3-4 mois dans les établissements d'école primaire. Et on intervient aussi après, par exemple, dans des lieux socioculturels, comme on a fait une intervention au centre hospitalier de Blois avec le service pédiatrique l'année dernière.
C'est toi qui vas les chercher, les projets, ou ils viennent spontanément à vous de temps en temps?
Ils viennent beaucoup à nous. Ce qui fait que maintenant c'est un petit peu difficile de tout caler. Par exemple, pour tout ce qui est les projets scolaires, on est sur du un an et demi d'attente entre le moment où l'école nous sollicite et le moment où on peut intervenir. Donc on a un petit peu des délais comme ça. Après, pour tout ce qui est la diffusion, donc là, il y a deux cas de figure. Il y a des festivals ou des théâtres qui vont nous dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez de nouveau comme pièce chorégraphique, qu'est-ce qu'on peut présenter. Et nous, on va aussi après démarcher aussi des festivals et des théâtres pour, qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas pour aussi présenter notre travail.
J'imagine qu'il y a un gros travail d'équipe dans Azote, enfin Azote et puis Blois Danse bien entendu. Comment arrives-tu à passer du danseur chorégraphe, à la personne qui gère une équipe, enfin qui est en lien permanent avec une équipe pour monter des projets ?
Je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais avant, à l'humain. L'humain, c'est très important et nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans un bureau où chacun est dans son bureau, on se voit à la pause café et puis après on retourne dans son bureau. On est ensemble tout le temps, on se touche. Enfin voilà, c'est vraiment un rapport qui est complètement différent, donc c'est aussi des relations qui sont très différentes. Dans aucune compagnie avec qui j'ai travaillé, que ce soit en France ou à l'étranger, on parlait de collègues. Hein. C'était vraiment à chaque fois des amis ou alors des gens avec qui on danse. Mais collègues, j'ai vraiment très rarement entendu ce mot. Et je pense que du coup, voilà, c'est notre relation qui se crée. Et c'est pas rare que on répète la journée, le soir on va boire un verre et puis le week-end on se fait des sorties. Donc en fait, pour ça que je parle d'humain, parce que ça devient presque des petites familles en fait.
Je te remercie pour ton témoignage.
Merci beaucoup.
Je parlerai bien encore avec toi pendant de nombreuses heures, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Merci de ta présence, merci de ton témoignage.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Par cet amendement, des horaires dignes et un salaire décent.
C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC.
J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite.
Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il fallait prendre le morceau de tissu, c'est pas tac, 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 tac.
Voilà, j'ai bien fait de continuer, parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fière, hein.
Les mains d'or, des mains tendues qu'on oublie parfois de serrer. Des petites mains, des mains vertes. Oui, des mains qui soignent, nourrissent et produisent. Des mains qui nous grisent et puis surtout, qui nous racontent des histoires. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 et les mains d'or, c'est leur voix.